première question par rapport à Marco Turunen, c'est comment Marco Turunen finit par se faire éditer par le Framework. Comment ça commence?
Ça commence par un dossier reçu par la Poste, mais en fait c'est Yvan Alagbé qui saura en parler mieux. Mais ça commence comme ça, simplement par un dossier. Et puis il envoyait des petites choses qu'il avait éditées lui-même, sa maison d'édition qui est Dada Books. Et voilà, donc c'était la façon la plus naturelle du monde. Et du coup, la première chose qu'on a publiée, c'est « L'amour au dernier regard » en 2003. Et dans une version tirée à 150 exemplaires, en copie, montée à la main, dans un atelier, ça a pris un peu de temps. Et avec une couverture en sérigraphie, voilà. Et puis après, on a continué, mais dans le désordre. Enfin, dans le désordre, on n'a pas sorti « L'amour au dernier regard » en premier. Bon, c'est pas très clair. On a suivi l'amour d'ici. Ensuite, c'était aussi la même année. Je vérifie parce que je suis plus sûre des dates. Du coup, je regarde dans le bouquin. 2004. L'année d'après. Donc là, on est passé au vrai livre, entre guillemets, chez l'imprimeur. Et donc, celui-là, il est tout imprimé en pantone métallique. Et... en fait, c'était donc il y a des grands aplats autour de ces images et c'est du noir et blanc. Et donc le projet c'était des pages toutes noires et pour avoir des beaux, on s'est questionné, pour avoir des beaux noirs et pour je sais plus comment on est arrivé à ce truc de bronze. Il y a des
une histoire de rapport aux extraterrestres, aux secours.
Oui, c'était ça.
Voilà. La science-fiction, on a trouvé qu'un pantone de métallique tout d'un coup, ça avait un côté un peu futuriste comme ça et très.
Peut-être vous pouvez parler du fait qu'il se met en scène à travers un petit extraterrestre.
Il se représente en alien. Et donc c'est un personnage qui s'appelle Intrus. Donc il est petit, il a une tête hydrocéphale et il a un trou dans la tête qui est une référence à un accident qu'il a eu quand il était petit où il allait jouer chez un copain et il jouait avec une arme et il a reçu une balle dans la hanche et voilà donc il se représente comme ça et c'est en référence à l'alien. Il y a aussi des voitures hein, pour le côté métallique et on faut reconnaître Marco Turunen, il était ok pour le faire, ce qui était quand même pas on a fait la proposition, on lui a dit on va pas imprimer en noir, on va mettre un pantone, est-ce que t'es ok? Il a quand même réfléchi, il était pas sûr mais il a dit oui, il s'est lancé. Ça c'est une qualité qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'avec nous on a quand même souvent proposé des choses un peu qui transforme un peu qui appuyait quelque chose qu'il disait dans qui voulait dire dans son travail, avec son travail et après réflexion il a à chaque fois accepté, donc ça c'est quand même
à chaque fois pris ses livres et essayé de trouver une solution, d'apporter quelque chose juste dans la fabrication, dans le moyen d'impression,
dans l'objet. Après le suivant c'est en 2005, c'est Base et donc ça c'est l'enfance d'Intrus. Et c'est réalisé avec des films plastiques découpés de couleurs. Donc ça joue avec des superpositions. Et c'est du plastique. Donc l'idée était comment rendre le côté plastique. On n'a pas eu l'argent pour faire un papier avec un gros vernis brillant. Mais du coup, on a pris quand même un papier bien brillant pour rendre...
On a pris le papier le plus brillant qu'on pouvait trouver. À l'inverse, on n'a jamais publié un livre sur un papier pareil. Mais là, du coup, ça se...
Ouais, c'est marrant, c'est un peu le papier que tu n'emploies pas, que tu trouves qu'il n'y a aucun projet qui peut aller là, avec lui. Bon, évidemment, il était d'accord, hein, ça collait bien. Et ensuite, L'amour au dernier regard, c'est aussi en 2005, donc il y en a un, je pense, au début de l'année, l'autre à la fin. Du coup, on a republié le premier livre, qui était épuisé, et c'était un tirage de 150. Et alors là, c'est aussi normalement un livre en noir et blanc. Il travaille à l'encre sur ce assez simplement.
Alors l'objet est complètement différent de la première version.
Ouais, ben, déjà le premier était fait à la main et celui-là chez l'imprimeur, donc bon, pas de sérigraphie, pas de petite fantaisie de cet ordre-là. Par contre, comment ça nous est venu? Ben, c'est avec toutes les références à l'univers
de Bessie.
C'est venu de Bessie, ouais. Est-ce que c'est référence à l'imagerie populaire et aux comics aux super-héros, donc aussi à la BD, roman,
BD de feuilleton,
de,
ouais.
Feuilleton de gare. L'idée de dire, oh, c'est toi qui es stylé là.
Ben oui, il y a des, je sais pas si tu vois ces BD de Bessie et des trucs de Van der Steen des années, à mon avis, 50-60, où en fait pour avoir une impression de couleur et imprimer, mais ne pas avoir les coups de la couleur, ils faisaient un truc très bizarre, c'est qu'ils imprimaient sur une face du cahier en bleu et sur l'autre face en espèce de brun. Et donc c'est une espèce de, ça donne l'idée que le livre n'est pas vraiment en noir et blanc, mais en fait c'est juste en bleu et rouge. Et quand on lit le livre, on passe d'une double page bleue à une double page rouge, parce que c'est imprimé chaque fois la couleur d'un côté et l'autre du cahier. Et on a fait ça.
Je pense que c'est pour ça qu'il a le plus hésité, Marco. Il était pas, il trouvait que l'idée était chouette et que ça, il se reconnaissait dedans, mais c'était pas. Et bon, encore une fois, il a accepté. Donc, en tant qu'éditeur, on peut quand même lui rendre une espèce de, enfin, le remercier de nous suivre toujours dans ce genre de truc. De la viande de chien kilo, ça c'est 2009. Là, on n'est plus dans la. On n'est plus avec Intrus et Rapin Regard, c'est Intrus, donc Marco Turenne, qui revient sur l'histoire de sa famille, mais on reste donc quand même dans son, dans l'autobiographie et dans le, la même sorte de décalage, mais alors qui est poussé autrement, puisque donc, c'est un livre qui ressemble à un livre d'enfant, c'est un format italien avec des couleurs acidulées. Il y a des petits personnages qui ressemblent à des petits oursons et qui sont tous... Tout est très mignon. D'ailleurs, c'est un livre, quand il est posé quelque part, les enfants s'approchent en disant « Ah, oh, c'est quoi ce truc mignon ?» Et en fait, c'est, il raconte l'histoire de sa famille à partir évidemment jusqu'à son grand-père qui revient de la guerre. Et donc là, on traverse la pauvreté, les violences conjugales, l'alcoolisme... Et donc, ça rend le propos d'autant plus violent qu'on est baigné visuellement dans quelque chose d'assez réjouissant, enfantin. Et...
Il y a une telle distance dans le, entre le dessin et le réel, le fait qu'ils soient tous des petits animaux très très mignons et tout ça, il va pas surjouer non plus l'émotion. Il nous laisse avec, avec ça, c'est comme si on voyait c'est une espèce de petit théâtre avec des mm-hmm. animaux mignons qui jouent un truc super cruel. Je pense que ça suffit et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche. Donc effectivement, oui, il y a une espèce de c'est presque, parfois c'est presque un peu froid, alors que ce qui est décrit est extrêmement dur. C'est peut-être aussi ce qui fait qu'on arrive à rentrer dedans de cette manière-là. Parce qu'il nous... C'est absolument pas racoleur, c'est un peu tout le contraire de cette bande dessinée d'aujourd'hui qui fonctionne par le sujet ou les grandes émotions qui sont mises dedans. Donc on peut raconter le sujet avant de raconter le... Mm-hmm. Ici, effectivement, il y a aussi un sujet qui est assez fort, mais qui nous préserve de son intimité.
Mm-hmm. Je crois qu'il est aussi, lui... pudique et qui a aussi dans leur culture une façon de pas exposer. Enfin, quand on les rencontre, il y a un truc qu'on perçoit comme une caractéristique finlandaise en l'occurrence, d'être un peu plus, d'avoir un peu de distance, un peu de pudeur et d'être pas, en tout cas pas vite complètement lâché dans les révélations. Et donc sans doute que c'est lui et que c'est aussi un peu un élément culturel.
Chez Marco Turenne, c'est jamais littéral en fait. Il y a mm-hmm. toujours des couches de. C'est transformé, c'est déformé. Donc il faut rentrer dans cet univers-là et l'accepter d'une part aussi pour ce qu'il est, parce qu'il est littéral. Il est littéral avec des extraterrestres, avec des Pokémon, avec ça, et il est génial comme ça. Et savoir qu'aussi en dessous de ça, toutes ces choses-là. C'est de l'autobiographie et faire son et jouer avec ça, savoir que ça ne nous parle pas uniquement, ça nous parle pas non plus vraiment de sa réalité. C'est l'autobiographie, c'est de l'autofiction, c'est presque du fantastique. Toutes ces couches sont là et ça reste très 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 ouvert quoi. C'est oui, je pense qu'il y a vraiment une œuvre. C'est aussi formel que, enfin c'est aussi. Il y a une vraie réflexion formelle sur la structure, c'est un vrai travail de narration. C'est en même temps d'autobiographie, donc toutes ces couches se mêlent et ça, c'est vraiment captivant.
Et dans le dernier, OVNI à l'ATI, qui est sorti en janvier. L'objet, alors là on s'est aussi un peu lâché, avec une couverture en papier miroir, donc qui reflète... Bon voilà, on s'est dit on va jouer sur... De toute façon on ne s'est pas résumé ce qu'il y a dedans, c'est 252 pages de court récit. Et l'idée de l'objet était d'aller à fond dans cette idée des ovnis, de l'extraterrestre. Et...
Au départ, c'est une revue qui fait lui tout seul en Finlande, et qui est une revue sur les ovnis qui sont apparus dans son village à Lahti. Et donc, c'est il y a des histoires courtes qui sont soi-disant des espèces de témoignages autour des ovnis, mais on voit vite que c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Et à la fin de chaque volume, il y a un appel à contribution pour que les gens témoignent de leur rencontre du troisième type. Et puis, il y a des témoignages, ou des pseudo-témoignages de gens qui ont vu des ovnis. Donc, ça se présente comme une revue. Assez vite, on a voulu le faire comme un recueil de revues. Et puis, c'est devenu un objet, comme une reliure, comme ça. Et puis, on a voulu y aller à fond.
Les couvertures de chaque... Oui, c'est comme ça, se présente comme une reliure, effectivement. Comme si on avait relié plusieurs numéros d'une revue en conservant les couvertures, les formulaires qui reviennent à chaque fois à la fin. Bon, les pages fluo, c'est pour... Mais voilà, encore un peu, avec Marco Turnel, on peut s'amuser. On dit quand est-ce qu'on a l'occasion d'utiliser du fluo, si c'est pas avec un livre sur les ovnis, avec du miroir, du fluo, etc. Lui, il avait ses couvertures qui étaient chacune d'une couleur. C'était de la quadrille et... Mais tout le livre en noir et blanc, donc après il y a les questions de coût, etc. C'est bon, ça, deux Pantone fluo, on peut le faire. Et puis en plus, ça donnait l'occasion quand même de publier deux pages de Mathieu Goldberg, donc moi j'étais assez contente, puisqu'il a contribué à la revue de Marco dans les témoignages sur les expériences avec les ovnis. Voilà, ça c'était aussi un petit aparté. Et puis sur le contenu, donc on retrouve là Rapa Regard et Intrus.
C'est toutes des anecdotes qui se succèdent, hein. Une fois Intrus à Paris, une fois Intrus à Moscou, et puis une fois ils font les courses, il y a la mère d'Intrus qui vient chez eux. Il y a une série d'événements comme ça, et puis à un moment arrive quelque chose au début un peu assez discrètement, la question de la maladie. Et donc, finalement, on apprend que Rapa Regard est malade. Et qu'elle a...
Mais elle lui annonce, alors la façon dont elle lui annonce, c'est en fait un peu comme tout... Elle rentre du travail, c'est lui qui se plaint de sa journée, où il a eu plein de petits emmerdements avec sa voiture et je ne sais quoi. Et il lui dit, toi, ta journée, ah, bah, j'ai eu si... elle aussi raconte ses trucs de boulot, et au fait, j'ai une tumeur au cerveau. Et on est comme ça, alors qu'on a traversé effectivement différentes anecdotes, il y a des problèmes avec UPS pour la livraison de ses livres... Ce fameux cow-boy collectionneur de Pokémon de Pâques. Et donc, on est plongé dans tout un tas de choses très diverses. Et puis, au milieu de ça, c'est toujours ce rapport au quotidien. Et donc, elle l'annonce aussi, voilà, comme, un peu comme il parlait, lui, dans La viande de chien kilo. Il racontait les faits comme ça. Et donc, elle lui annonce ça. Et puis, c'est la fin de après, on passe à l'histoire suivante. C'est la fin-là. Donc, on est un peu choqué. Mais... C'est tellement annoncé comme le reste que finalement le truc se poursuit. En fait, c'est.
Oui, finalement, c'est cette question de la maladie qui devient le vrai sujet.
Et c'est la manière dont ça se développe, parce qu'après, c'est les médecins, c'est là où ça prend vraiment corps. Finalement, c'est pas l'annonce. Et, en fait, on se rend pas compte de ce que c'est cette maladie. Enfin, et c'est après, c'est comment lui. Et là, il raconte plus, finalement, par rapport aux autres bouquins, comment ils vivent les choses. Et là, il parle de son ressenti et de celui de Rapa Regard. Je pense que c'est la première fois où il livre un contenu un peu intime sur la façon dont il vit les événements. Et c'est là que le livre se renverse. Mais encore une fois, il y a cette distance que ce qu'il raconte, mais ça reste. Lui, il est toujours un intrus, elle est toujours en super-héroïne, et donc ils sont. Donc il y a la maladie, les médecins ont des grands nez comme ça, des masques. Et donc tout... Donc il y a toujours, on conserve toujours une distance où on n'est pas plongé dans des images réalistes. Et ce qui toujours vient renforcer le propos et ce à quoi on est confronté.
On a de plus en plus d'attachement à ces personnages qui aussi deviennent tout d'un coup de ces masques... de l'intrus ou de la superwoman, il y a tout d'un coup une espèce de beauté, de fragilité. On les, on les, on les, on les on, ouais, on, c'est ça, on a une empathie pour ces personnages qui sont plus grandissantes et du coup la faim.
Mais c'est vrai qu'on rit beaucoup aussi.
Quoi ?
C'est vrai qu'on rit beaucoup aussi.
Ouais, il y a des...
L'histoire 51 messages, par exemple, moi, ça me faisait vraiment beaucoup rire.
C'est les reçoit des spams de pu, donc il est derrière son Mac et il reçoit les, et donc voilà, on lit et l'histoire c'est ça, c'est 51 messages pour agrandir son pénis et compagnie, ouais.
Et là, il y a vraiment ce personnage immobile, le côté inadapté du personnage prend toute son ampleur et c'est juste hyper drôle. Bon, voilà, il y a ça aussi. Sinon, est-ce que vous savez un peu comment ça se passe en Finlande, l'édition ? Parce que donc lui, il a aussi une maison d'édition. Est-ce que vous pouvez un peu parler de...
Il a eu une maison d'édition.
Il a arrêté, il avait arrêté et puis il a repris là récemment.
Ah ouais.
Après, je trouve que ça démarque beaucoup avec de l'auto-édition. D'abord de publier ses propres travaux et publier aussi les travaux d'Anne-Marie, qui était sa compagne, donc qui faisait un peu. Et puis après, d'ailleurs, je lui dis des fois, mais pourquoi ton projet, il en a fini un. Je dis, ben on peut le faire. Il veut d'abord publier lui ou publier en Finlande parce qu'il aime bien, ça le fait réfléchir sur l'objet, sur son travail, que de publier d'abord en Finlande et puis en France.
Sur la vie des Marco Turunen,
ouais.
C'est ça?
Ouais, c'est ça, des 42 ou je sais plus combien Marco Turunen de Finlande qu'il a sélectionné et qui va fondre en un seul Marco Turunen. J'ai hâte de lire ce projet. Donc, ça fait longtemps qu'il nous en parle et apparemment il est fini, ce que j'ai appris.
On a,
en lisant l'interview, non.
Et on peut s'attendre à ce qu'il soit édité chez Frémok ?
Ah oui, certainement.